Berger, y es-tu ? Un podcast réalisé par Franz Vellier pour Radio Saint-Ferréol et la communauté de communes du Val-de-Drôme en Biovallée.
Louis, y es-tu ? M'entends-tu ? Je mets les bottes.
Benjamin et Corinne forment un couple de bergers et d'éleveurs dans la vallée de la Drôme. L'été, ils vivent en alpage avec leurs deux enfants en bas âge et le troupeau de brebis. Le reste de l'année, à la ferme, ils soignent leurs bêtes élevées pour la viande.
Louis, y es-tu ? M'entends-tu ? Je mets ma veste. Louis, y es-tu ? M'entends-tu ?
Leur vie est rythmée par cette alternance, mais aussi par le calendrier des dossiers de subvention dont ils dépendent. Entre le retour du prédateur, le réchauffement climatique ou la concurrence de la viande étrangère, le chemin du pastoralisme est semé d'embûches. Mais Benjamin et Corinne sont confiants. Leur métier n'a-t-il pas traversé les millénaires ? Épisode 9. Le temps des subventions.
Alors, on commence par quoi ?
On peut faire la demande 2025, c'est ce qu'il y a de plus rapide.
Ouais.
Et après, on s'attaquera au paiement.
Ok.
Allez, c'est parti. Voilà, il nous demande prédateur motivant la demande. Donc nous, on est concernés par la prédation du loup. Êtes-vous membre d'une entité collective souscrivant à cette aide ? Donc oui, parce que c'est le GP de...
Oui, l'alpage, ouais, ouais.
Donc c'est le GP du jeu de Joku.
Mm-hmm.
Il me faut le SIRET.
GP. Ah bon, alors ça ?
Je vais le trouver sur Internet. Normalement. Louise Riffard, du coup, je suis l'animatrice de la Fédération départementale ovine, qui est le syndicat des éleveurs de brebis de la Drôme. Alors, les principales missions de l'AFDO, c'est d'accompagner ses adhérents. Donc, on leur propose un accompagnement administratif, donc sur des dossiers notamment de subventions pour les mesures de protection. C'est l'objet de ma visite aujourd'hui chez Benjamin. Mais aussi sur les dossiers pour les aides de la PAC, donc la politique agricole commune. Alors... en nombre d'animaux, t'es toujours à... On avait 104 adultes l'année dernière.
Et ben là, il va y avoir un peu plus. Ah, mais cette année, j'ai pas encore fait mon recensement.
Ton recensement ? Ouais. Oui, mais c'est approximatif.
Oui, à peu près.
250 effectifs maximum. Donc t'es dans la catégorie B.
C'est quoi les catégories ?
Et ben, c'est en dessous de 150 animaux, la première catégorie, où le plafond d'aide est le plus bas. Après, il y a 150 à 450 animaux. Et après, il y a 450 à 1200, 1200 à 1500 et au-delà de 1500 animaux. Et c'est vrai que nous, dans la Drôme, la taille moyenne d'un troupeau, c'est 200 brebis. Donc, quand on ajoute les agneaux, ça fait maximum 400. Donc, on est très, très souvent dans la catégorie B de 150 à 450 animaux.
Et ça fait une grosse différence au niveau de l'aide ?
On passe de 11 700 à 19 200. C'est pas tout à fait doublé, mais...
L'aide, elle va servir à quoi concrètement ?
Là, elle va défrayer une partie du travail supplémentaire lié au risque d'attaque et aux attaques de loups. Une partie des coûts de revient des chiens de protection, des parcs aussi de protection, des parcs électriques. Voilà.
Et le travail supplémentaire, c'est chiffré comment ?
Principalement l'embauche de bergers salariés.
Mais si c'est vous qui le faites ?
Et bien quand c'est nous qui le faisons, on est...
C'est un forfait journalier.
Ouais, c'est un forfait par jour, ouais, c'est ça.
Un forfait par jour de pâturage. Donc c'est pour ça qu'on fait un schéma de protection où on dit de telle date à telle date, il y a tant d'animaux qui pâturent, de telle date à telle date, il y a tant d'animaux. Pour chaque période, on dit est-ce que c'est un berger salarié ? Est-ce que c'est l'éleveur qui fait la surveillance ou la garde ? Combien il y a de chiens ? Comment les animaux sont regroupés la nuit ? Est-ce qu'ils sont regroupés en parc, en bergerie, etc. Et tout ça, ça nous donne un nombre de jours de surveillance ou de garde par le berger, par le salarié. Et après, ça nous calcule des coûts relatifs à cette protection. Et une fois que le plafond est appliqué, l'État verse 80% des dépenses retenues éligibles. Voilà.
T'as déjà essayé de calculer le coût réel avec des éleveurs, vraiment en payant les heures de travail des éleveurs au minimum au SMIC ?
De façon très globale, non. Mais par contre, on a un exemple très concret qu'on a pour le coup mesuré, chiffré assez précisément, c'est sur les chiens de protection. Mmh. Là, aujourd'hui, un chien de protection, l'État va subventionner à 80% un forfait de 800 euros par an et par chien. Donc ça fait 600 euros de subvention par an et par chien de protection. Et nous, on a estimé, entre la charge de travail, les frais vétérinaires, le coût des croquettes, etc., qu'un chien de protection, ça a coûté à un éleveur plus de 2500 euros par an. Voilà. Et l'État donne 600. C'est un forfait qui n'a jamais été revu depuis au moins 15 ans ou 20 ans. Voilà, c'est le même forfait. Pareil sur le coût des salaires, la prise en charge des bergers salariés, c'est des forfaits qui n'ont jamais été revus depuis au moins plus de 10 ans. Alors que bon, l'inflation, les salaires pour avoir des bergers qualifiés qui restent, qui reviennent chaque année, souvent les éleveurs les payent bien, enfin essayent de les payer au mieux, quoi. Mais la subvention est toujours plafonnée.
Tiens, déjà le devis pour les filets postes prévus pour cette année.
Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie de pouvoir là être aidé aujourd'hui par Louise ?
C'est quand même plus sympa de faire ça à plusieurs. Ça permet de faire évoluer, de faire remonter des choses du terrain, moi je trouve aussi. Et puis moi, ça me sécurise aussi, sûr de ne pas faire une grosse connerie en oubliant de cliquer sur une case dans un endroit sur un site.
Il y a une partie des éleveurs que j'accompagne qui pourraient le faire. Tout seul, qui pourrait se débrouiller. C'est vrai que moi, ils payent une prestation de ma part, donc ça finance la FDO, etc. Donc ça a aussi un intérêt collectif, voilà, syndical, mais ils payent quand même une prestation. Et comme le disait Benjamin, non seulement ça les sécurise, et puis ça leur fait aussi gagner du temps, souvent. Parce que les éleveurs qui pourraient arriver à se débrouiller, ben, des fois, ils mettraient peut-être une journée ou deux journées parce qu'ils sont bloqués, il manque un papier, etc. Donc ça pourrait prendre beaucoup plus de temps. Le fait de faire tous ces dossiers et de voir une diversité de cas particuliers, ça me permet de faire remonter syndicalement au niveau national, de participer avec des groupes de travail. L'année dernière, ils avaient imaginé que pour contrôler les clôtures électriques, ils allaient demander aux éleveurs d'envoyer des photos géolocalisées des clôtures électriques, sachant que 90% des éleveurs travaillent avec des filets mobiles, donc qui posent, qui enlèvent, qui déplacent, qui reposent. Donc déjà, il faut avoir un appareil qui le permet, être à l'aise avec un téléphone qui permet de faire ça. Enfin bon, heureusement, ça n'a pas tenu et ils ont vite fait marche arrière.
Et il y avait un enjeu cette année avec la fièvre catarrhale ovine. Qu'est-ce que ça a donné au niveau du syndicat, au niveau des éleveurs ? Est-ce qu'il y a eu des aides ?
Effectivement, très gros sujet cette année. On a eu énormément d'éleveurs qui ont été touchés, beaucoup de pertes dans les troupeaux. Il y aura un fonds national qui va être ouvert là, normalement d'ici la fin du mois de janvier, pour que les éleveurs puissent demander des aides au niveau de l'État.
Là, vous êtes sur le dossier loup. L'autre gros dossier de l'année, c'est quoi ?
Ben, souvent, c'est la PAC, la politique agricole commune. Donc, c'est les subventions européennes qui subventionnent la production agricole européenne pour des produits alimentaires accessibles.
Des produits alimentaires et des services et environnementaux.
Des services. Tout à fait.
Moi, ce qui me plaît le moins dans le métier, c'est cette dépendance qu'on a à l'administration, puis tous les comptes à rendre, toute la charge administrative qu'on a en permanence. Voilà.
La politique agricole commune, est-ce que vous pourriez vous permettre de vous en passer ?
En élevage de brebis en montagne, se passer de la PAC, c'est franchement ouais, c'est impossible. Je connais personne qui le fait. Je pense qu'il vaut mieux être au RSA dans ce cas-là. Non, mais la caissette d'agneau, on est à 13-14 euros le kilo. Il faudrait la vendre 28-30 euros le kilo pour pouvoir s'en passer, toi. Ce qui, ouais, je pense. Ou alors, il faudrait vraiment trouver un marché spécifique, quoi. Je sais pas. Non, je vois pas trop comment ça serait possible. Le problème, c'est pas de fond, c'est pas la complexité du système, c'est sa pertinence. Et c'est le fait qu'on soit contrôlé sur les moyens qu'on met en œuvre. Mon point de vue, moi, ça serait qu'il faudrait revoir le système pour qu'on soit subventionné en fonction des services qu'on rend sur le terrain et qu'on vienne nous contrôler. Bah, cette parcelle, bon, vous l'avez pâturée, elle était bien entretenue, ok, vous avez fait le taf, vous avez fait votre boulot, bah, c'est bon. Si on se basait vraiment avec des contrôles sur le terrain ou sur les résultats qu'on a de notre travail de tous les jours, on aurait quelque part un système qui nous paraîtrait beaucoup plus, je sais pas, pertinent, quoi. Et qui, de mon point de vue, serait plus aussi satisfaisant pour les gens qui donnent l'argent, hein, pour les contribuables, de voir que par rapport à un euro que met le contribuable, il y a vraiment un service environnemental qui est rendu en face.
Berger, y es-tu ? Une série documentaire en 9 épisodes. Prise de son et montage, Franz Vellier pour Radio Saint-Ferréol. Merci à Benjamin et Corinne, éleveurs ovins en pastoralisme, pour leur témoignage, et à leur fille Madeleine, que vous entendez dans le générique. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la communauté de communes du Val-de-Drôme en Biovallée. Il s'inscrit dans le cadre du programme européen Moving et bénéficie d'un financement du programme Horizon 2020 de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation.